Mais bonjour à tous et à toutes. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. Alors, pour une troisième rencontre du 9e type, je vous rappelle, il s'agit d'une série réalisée en collaboration avec La Vie en BD sur CKRL 89.1 et le Festival Québec BD. Le concept, fort simple, des longues entrevues, des discussions en profondeur avec des créateurs et des créatrices du milieu de la bande dessinée d'Amérique du Nord ou d'Europe. Tout simplement. Alors, cela étant dit pour cette semaine, eh bien, on aura le plaisir de plonger au fil des prochaines minutes dans une rencontre avec l'autrice Myrion Malle, qui, entre autres titres, nous a offert Commando culotte chez Ankama, nous a offert La Ligue des super féministes à La Ville brûle, ou encore C'est comme ça que je disparais, donc qui a été publié du côté européen à La Ville brûle, donc c'est déjà disponible, et qui sera disponible à la fin de l'été, début automne, aux éditions Pawpaw, ici au Québec. Alors, donc, une discussion avec Myrion Malle cette semaine. Alors, on est donc en compagnie de Myrion Malle. Myrion, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'emblée, peut-être, j'ai envie de commencer au départ. J'ai l'impression que, pour toi, l'idée d'écrire et la vocation d'écriture est venue assez jeune. De ce que j'ai compris, à 7 ans, 8 ans, tu t'amusais déjà à jouer à écrire des romans, si on peut dire.
Oui, ben, je pense comme beaucoup de gens, j'écrivais des nouvelles, puis des petits trucs. Est-ce que je tenais un journal intime? Non, j'essayais, mais je n'y arrivais pas trop. Mais oui, non, j'ai toujours aimé écrire et dessiner. C'était pas du grand art, à cet âge-là, mais c'est sûr que c'est venu assez tôt.
Et tranquillement, il y a eu aussi un volet didactique parce que tes premières bandes dessinées, bon, t'as lancé le blog Commando culotte, je pense, autour de 2011-2013.
Ouais.
C'était arrivé plus un peu sur la volonté d'utiliser la bande dessinée comme un outil didactique. C'est un peu là que le volet dessin a fait un peu son apparition dans ton cheminement?
Oh non, je dessinais déjà avant. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait de la BD didactique, c'est que j'étais en école de bande dessinée à Saint-Luc, à Bruxelles. Et en fait, donc, en école de BD, en tout cas à Saint-Luc, on a des devoirs, des travaux d'école à faire. Donc, c'est dur d'avoir un projet, un long projet à côté, en plus de tous ces projets d'école. Et puis moi, j'étais très engagée déjà, j'étais très militante et j'avais beaucoup de discussions autour de questions féministes et notamment autour des films que je voyais, des séries, tout ça. Et en fait, c'est juste venu parce que ça me permettait de publier des choses sur mon blog qui n'étaient pas des travaux d'école, parce que je publiais mes travaux d'école puis quelques illustrations, mais comme j'essayais de trouver une cohérence, parce que c'était encore l'époque où les blogs BD, c'était encore lu et tout ça. Maintenant, ça a complètement disparu, mais il y avait quand même un peu cette culture-là. Donc, j'ai essayé de trouver une cohérence. Je me suis dit, ah, ça serait bien de reproduire ces discussions que j'ai dans la vraie vie avec mes amis ou les gens de ma classe et tout ça, et en faire des petites BD pour juste, en fait, ouvrir la discussion avec les gens d'Internet. J'avais pas beaucoup de lecteurs à ce moment-là ou quoi. C'était vraiment juste une idée d'ouvrir la discussion avec quelques personnes de plus et puis de pas me répéter aussi, parce que je me répétais beaucoup, parce que bon, souvent, quand on essaye de parler de sujets comme ça, c'est les gens veulent pas vraiment être convaincus et donc ils veulent juste te faire répéter en boucle les mêmes arguments. Et je m'étais dit, bon, ben, au moins là, ils sont écrits, ils sont quelque part, j'ai pas besoin de les dire 3000 fois, je peux juste renvoyer vers là.
Oui, puis en fait, d'utiliser un peu, d'une certaine façon, le film, la série, pour amener des discussions peut-être un peu plus larges aussi. On va utiliser tel extrait pour parler de la culture du viol, on va utiliser tel autre extrait pour parler de tel type de violence, etc., etc. Donc, de créer un peu une dynamique entre le concept puis une illustration, dans le fond, du concept appliqué dans un contexte de culture populaire.
C'est sûr que la BD didacte, je sais pas, il y avait quelque chose qui était facile dans la bande dessinée. Ça a toujours été quelque chose qui était pratique pour moi pour m'exprimer, je dirais. Et puis là, il y avait l'idée, je pense, de synthétiser quand même de à la fois ce que moi je pensais, mais aussi les scènes de film. C'est facile dans une vignette ou deux représenter qu'est-ce qu'on veut faire, comment dire, plutôt souligner ce qu'on veut faire ressortir d'une scène de film ou de série, par exemple, je trouve toujours.
Oui, effectivement. Bien, en fait, d'un côté, le dessin permet des fois de compléter aussi l'illustration complexe, puis on le voit aussi dans d'autres ouvrages didactiques que vous avez fait. Là. Je pense à La Ligue des super féministes, où là, on prend des concepts peut-être plus universitaires parfois, puis on les ramène un peu à un niveau où, à 10 ans, on est capable de comprendre, parce qu'au-delà du mot, il y a le concept. Le concept est simple, le mot est complexe, on peut dire.
C'est ça, exactement. C'est vraiment ça, c'est vraiment de la vulgarisation universitaire, mais accessible pour les enfants je pense que c'est 8-10 ans, peut-être 10 ans pour ceux qui ne sont pas trop habitués.
Oui, parce que dans le fond, si on revient un peu à la notion de parcours sur laquelle on s'était démarré, donc il y a eu des études en dessin, il y a eu des études féministes aussi par après qui sont venues donc en sociologie, donc qui sont venues aussi apporter d'autres dynamiques, si on peut dire, à la réflexion derrière la création.
Oui, c'est ça. J'ai un parcours où j'ai comme commencé par des études littéraires, puis de théâtre, puis de bande dessinée, puis là, après ça, parce que j'avais commencé mon blog, justement, et que j'étais rentrée plus dans les questions militantes et politiques et tout ça, et que j'avais envie d'avoir quelque chose de peut-être d'étudier ça en profondeur. J'ai fait une maîtrise de sociologie et en spécialisation en études féministes. Et la Ligue des superféministes, je l'ai fait après avoir fini ma maîtrise. Donc, j'avais vraiment... Parce que je trouve que c'est vraiment une chance que j'ai eue de pouvoir faire cette maîtrise, comme j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Ma pensée s'est beaucoup enrichie. J'ai vraiment construit... mes positions politiques, féministes, etc. Mais malheureusement, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas accessibles du tout parce que c'est écrit en jargon universitaire. Puis même moi qui avais Bac plus 5, Bac plus 5 en France, ça veut dire 5 ans après le diplôme des études secondaires. Il y avait des textes, je me rappelle que je les jetais par terre parce que j'étais comme « Ah, c'est quoi ce langage incompréhensible ?» Et en fait, c'est pas si compliqué. Et surtout quand on veut parler de questions de sociologie, enfin des questions sociales plutôt, de justice sociale comme on peut dire, c'est sûr que c'est pas du tout... ça va pas dans le sens de ce qu'on veut accomplir, de rendre ces textes-là hyper inaccessibles, même si je comprends aussi que quand on est au sein du milieu universitaire, les théoriciennes, elles doivent aussi avoir un certain langage parce que sinon elles sont pas respectées par le milieu. Bref, c'est comme tout un truc, mais moi j'avais vraiment envie de sortir ça et de vulgariser, en fait, de faire juste de la vulgarisation. Et c'est ça, c'est qu'en fait, les questions, toutes ces questions-là liées, ces questions sociales, on pense que c'est très compliqué, qu'il faut attendre d'être adulte pour bien comprendre, alors qu'en fait, c'est très, très simple. Et oui, l'intersectionnalité, c'est un mot compliqué, mais en soi, si on l'explique clairement, les enfants peuvent comprendre, et c'est vraiment mieux qu'ils comprennent ça jeune plutôt qu'ils construisent une pensée qui serait axée autour de eux, par exemple, et qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres personnes aussi qu'il faut prendre en compte et qui doivent s'en rendre compte arriver à la vingtaine. C'est un peu dommage, ça, c'est du temps un peu perdu. Donc, voilà.
Exact, d'acquérir, de s'approprier les concepts rapidement pour après ça pouvoir les appliquer parce que de toute façon, c'est au jeune âge qu'on façonne notre première vision du monde, notre premier portrait. Donc, c'est important d'avoir des outils et c'est important de prendre des outils du milieu universitaire, des termes qui sont précis, qui, comme vous disiez, qui ont besoin d'être précis, mais de les ramener à un niveau où on est capable d'expliquer, de synthétiser le concept. Et j'imagine dans un contexte comme celui-là, la bande dessinée, où on dit, bon, on a un espace limité, il y a une dimension, il y a deux outils, il y a les mots, il y a le dessin, ben c'est un bon outil, j'imagine, de vulgarisation, de synthétisme aussi pour bien enrober, expliquer ces concepts-là.
Oui, vraiment. D'ailleurs, moi, je trouve que, par exemple, la Ligue... je sais que les dessins ne sont pas forcément du goût de tout le monde et il y a beaucoup de gens qui pensent que je ne sais pas dessiner mais non, c'est un choix que je fais de dessiner de cette façon-là. Et en fait, moi, je trouve que par exemple, quand j'ai commencé sur mon blog et maintenant quand je fais de la BD didactique, parce que je ne dessine pas tout de la même façon pour la BD didactique et la BD de fiction, par exemple, illustration, bref. Mais j'ai vraiment réfléchi, c'est ça, cette synthétisation, parce qu'au début, j'écrivais des énormes pavés et je faisais un petit dessin. Au final, ça ne fonctionne pas. Autant écrire un texte, parce qu'en plus, ça sera moins pénible que de lire ça avec une écriture manuscrite un peu serrée et tout ça. J'ai vraiment travaillé, c'est ça, la composition. Bon, c'est sûr que la BD didactique, ça demande plus de texte que de la BD, que d'autres types de bandes dessinées, c'est sûr. En tout cas, peut-être plus que la BD narrative. Mais après, il y a vraiment l'idée de c'est ça, par les mots, par un assemblage de mots et de dessins qui ne doit pas être trop lourd ni d'un côté ni de l'autre. Aller au plus vite possible à l'idée qu'on veut faire passer, à ce qu'on veut transmettre. Et donc, ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment un travail de synthétisation et c'est quand même un beau défi parce que ça force à aller au plus direct de l'idée qu'on veut transmettre et dont on veut parler, en fait. C'est quand même assez... Des fois, c'est fatigant. Des fois, on s'arrache les cheveux, mais des fois, c'est aussi amusant d'essayer de voir comment on peut décortiquer quelque chose puis le présenter d'une autre façon.
Et l'approche, justement, mettons, on parlait d'intersectionnalité tantôt, bon, un exemple parmi d'autres, mais on part de ce terme-là, donc tu commences un peu par... on écrit, on essaie de le définir, après ça, on simplifie, après ça, on intègre le dessin. J'imagine que ça doit être un processus quand même pour trouver la bonne manière, pour trouver la bonne planche, la bonne résultante à l'arrivée, dans le fond.
Oui, alors... par exemple, pour La Ligue des super féministes, comme c'est un livre pour enfants, ça a été un autre défi pour moi parce qu'on ne peut pas expliquer des trucs aux enfants de la même façon qu'on explique aux adultes, simplement parce qu'il faut être beaucoup plus concis et beaucoup plus clair pour ne pas perdre des enfants. Parce que c'est sûr qu'un enfant de 10 ans, on ne peut pas dire telle idée amène à tel truc, qui, oh, on va faire une digression à là, puis après on revient. Il faut vraiment que ce soit assez linéaire. Donc ça, c'était quand même, c'était peut-être la chose la plus difficile à faire. J'ai dû redessiner tout le premier chapitre parce que j'avais fait trop serré, trop compliqué. Bon. Mais après, oui, c'est ça. Moi, quand je fais de la BD didactique, en fait, je fonctionne sans storyboard, sans crayonné. Je fais comme un plan de dissertation à l'école. Et j'essaye de faire mon propos, puis trois parties ou deux parties. Puis après, à l'intérieur, qu'est-ce que je peux... comment je peux construire ça. Et en fait, je fonctionne juste avec du texte. Et après, je découpe comme je me dis, OK, ça, cette partie, ça va être sur deux pages, cette partie sur une page. Et là, j'écris et j'essaye. Et en fait, au moment où j'écris le texte, j'essaye vraiment d'aller déjà, un peu comme si je préparais un oral, parce qu'à l'oral, on a tendance on écrit pas beaucoup, puis au final, on parle vraiment plus longtemps que ce qu'on écrit. Mais c'est un peu ça, j'essaye de réduire ce que j'écris pour que dans les dessins, soit pas... voilà, il y a vraiment un travail de réduction.
Oui, puis j'imagine que l'étape de dissertation est importante parce que ça permet de voir précisément qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut amener, puis éventuellement de se rendre compte qu'on en a trop, qu'il faut en retirer.
C'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment hyper utile aussi de fonctionner en dissertation parce que le but d'une dissertation, c'est à l'école, là, c'est de démontrer un point, de démontrer une théorie. Et donc là, c'est exactement la même chose et ça permet de... peut-être de pas s'éparpiller et de se rappeler toujours ah oui, ok, c'est ça que je veux montrer, je vais le faire en deux points ou je vais le faire en trois points et après j'arrive à une conclusion. Et donc oui, je sais pas si ça répond exactement, ça répond bien à ce jeu.
Oui, puis en même temps, c'est l'autre élément qui était amené que je trouvais intéressant, c'est l'idée plus linéaire, parce que par exemple dans Commando Culotte ou dans d'autres éléments où on s'adresse à un public plus âgé, ben on peut, comme tu disais, ouvrir une idée, puis après ça, ben finalement ça déboule sur une autre idée, on en ouvre d'autres, on en ferme plusieurs, donc on peut développer plusieurs récits parallèles. Tandis que quand on s'adresse à des enfants, ben on développe l'idée, on ferme, on ouvre une autre idée, on ferme, donc c'est plus linéaire. Donc est-ce que ça devient difficile de prendre ce réflexe-là ou au contraire, une fois qu'on a fait un truc comme la Ligue des superféministes, qu'on s'est concentré pendant un certain temps là-dessus, c'est difficile de retrouver le réflexe inverse, de pouvoir s'éparpiller un peu plus?
Ouais, peut-être que ça serait dans ce sens-là. Aussi, c'est que ça fait un peu de temps que... Enfin, depuis la Ligue, j'ai pas vraiment fait d'autres BD explicatives pour adultes ni pour enfants d'ailleurs, parce que je me suis concentrée plutôt sur la fiction. Mais j'avais essayé de réécrire une note pour mon blog que j'ai un peu abandonné, gardé de côté en me disant quand j'aurai le temps et tout. Et c'était drôle parce qu'effectivement, j'étais dans les deux, comme à la fois... j'allais à la super simplification, mais aussi il y avait certains points où j'étais en train de faire plop, 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 plop. Puis je me disais, oh mon Dieu, c'est trop confondant, personne ne va rien comprendre. Et j'étais vraiment un peu dans les deux trucs où à la fois, soit je trouvais que j'étais trop dans la simplification sur certains points et d'autres, j'étais... En tout cas, j'imagine que c'est un équilibre à retrouver. C'est vrai que c'est pas forcément sur ça que je vais me consacrer toute ma carrière, donc là j'ai un peu mis ça de côté, mais peut-être si j'y reviens j'aurai un nouveau faudra que je m'adapte d'une nouvelle façon pour un nouveau public ou même pour revenir à un public auquel j'ai déjà parlé en tout cas ouais, ça demande toujours de réfléchir en tout cas à la forme autant que le fond. Et c'est pour ça que des fois, ça me fait de la peine. Quand les gens pensent que les dessins sont de cette façon-là ou que les textes sont de cette façon-là parce que je ne l'ai pas réfléchi. Au contraire, il y a un gros travail en fait, de construction pour que ce soit le plus clair possible. Et même si des fois, ça passe par l'ultra-simplification ou un peu plus de texte. Voilà.
Oui, puis en fait, c'est, j'imagine toujours le défi de trouver le bon dessin, la bonne approche pour le bon propos dans un récit didactique. La vedette, c'est les mots, c'est les termes, c'est l'explication. Aussi, ben, enfin, on ouvrait vers la fiction, mais dans C'est comme ça que je disparais, ben, de trouver aussi le bon style de dessin, la bonne approche parce qu'on est dans un autre esprit. Mais tu sais, c'est de choisir qu'est-ce qu'on met de l'avant puis comment créer un équilibre à l'intérieur de l'album. C'est des choix qui sont quand même assez difficiles aussi, j'imagine.
Oui, dans la fiction.
Dans la fiction autant que dans le didactique, dans le fond, oui. De trouver le bon dessin pour le bon propos.
Ouais. Ben moi, je pense que c'est une réalisation qui m'est venue quand j'étais en école de BD. J'ai lu le livre Daddy's Girl de David Reichler, qui est un livre très très difficile. C'est pas du tout une BD fun, mais c'est un livre très important, je trouve, et qui parle de choses très difficiles. Et en fait, le dessin de l'autrice est très différent de ce qu'elle fait en illustration, où c'est dans la BD, c'est très noir, très sombre, très serré. Et puis ses illustrations, c'est des petits enfants tout colorés qui jouent et tout ça. Et en fait, ce dessin-là, on dirait de la gravure. J'avoue que je ne sais pas du tout si c'est de la gravure ou si c'est juste que ça y ressemble, mais c'est très étouffant. Et je me suis vraiment rendu compte, j'étais super jeune, j'avais genre 20 ou 21 ans, puis j'étais comme, ah, ok, oui, en fait, la forme doit vraiment être très, très réfléchie. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose que je garde tout le temps à l'esprit et que j'essaye toujours d'aller vers une forme qui va... Bon, j'ai pas du tout la prétention de faire une œuvre aussi bien que Daddy's Girl, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais juste comme de vraiment garder ça à l'esprit quand j'écris une histoire, en fait, que ça soit... C'est ça, genre... la BD didactique, c'est pas du tout de la même chose, c'est pas du tout les mêmes choses qu'il faut mettre en avant, le même pas forcément la même réaction chez la lectrice ou le lecteur, mais comme en tout cas les mêmes choses qu'on veut titiller. Alors que voilà, dans la fiction, bah, y a la composition, il y a comment le format, est-ce qu'on met des couleurs ou pas, machin, voilà, et il y a, et c'est quelque chose que je trouve super intéressant à faire et à réfléchir. Je trouve que vraiment c'est de pas juste chercher un certain esthétisme qui moi je trouvais très important aussi, mais je veux dire pas d'aller vers la technique qu'on maîtrise le plus forcément, puis d'essayer de trouver celle qui va le mieux servir l'histoire ou le propos du livre. C'est vraiment quelque chose que j'aime dans la bande dessinée.
Et quitte à exercer, quitte à faire justement des travaux, des expérimentations pour essayer justement de trouver le bon ton. Dans C'est comme ça que je disparais dans votre œuvre de fiction, on s'est orienté un peu plus vers, j'ai l'impression, une inspiration un peu shoujo manga. Ouais. Ben, il a fallu se rendre là, j'imagine, ou voir pourquoi c'était justifié d'aller vers ce type d'approche visuelle-là.
Ben oui, en fait, moi, à la base, donc en BD, en fait, un truc qu'il faut savoir et qu'on apprend assez vite, c'est que c'est vraiment la couleur qui est appréciée. Comme il y a plein de gens que le noir et blanc, ça va les arrêter. Et donc, c'est sûr qu'on a forcément tendance, quand on veut écrire une histoire, à se dire, ok, je vais mettre de la couleur parce que forcément, ça va plus attirer l'œil et tout ça. Et là, je m'étais dit, ok, est-ce que c'est une histoire qui va fonctionner en couleur? J'avais un peu essayé parce que j'avais fait une petite histoire pour un autre livre avec de la couleur que je trouvais que c'était comme... Je ne suis pas la best en couleur, mais donc là, j'avais trouvé une façon de faire qui me plaisait. Et au final, ça ne marchait pas du tout parce que le noir et blanc servait vraiment l'espèce de lourdeur et de froideur. Ben, je ne pense pas que l'histoire est froide, mais comme quelque chose de très direct, disons, par rapport à l'histoire qui est racontée. Et je trouvais que ça, c'était aussi joli, que ça servait bien. Et puis les shoujo, c'est parce que moi, c'est vraiment une grosse... c'est quelque chose que j'ai commencé à lire ça à 10 ans, pendant toute mon adolescence. J'en lisais, puis je trouvais ça trop beau. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment... Comme c'est les premiers dessins que j'ai recopiés, c'était Pokémon. Mais après ça, c'était beaucoup des shoujo et tout ça. Et je voulais être mangaka quand j'étais petite. Et bon, bref. Et il y a un travail des émotions dans les shoujo que je trouve folle. Genre, il y a vraiment, que ce soit dans l'humour ou au contraire dans ce qui est plus mélodramatique, il y a un travail sur les visages, les émotions qui est à la fois hyper simple et en même temps hyper... désolée, avec le confinement, on dirait que j'ai perdu mon vocabulaire. C'est toujours bizarre de parler à quelqu'un d'autre maintenant. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui transmet beaucoup. Par exemple, c'est ça, les petits les chibis, là, les petits dessins hyper simplifiés avec les yeux, les tout petits yeux, puis des grands rires. Comme, c'est super simple, mais on comprend que ça veut dire un rire. Moi, je suis hyper fan de Ayazawa et dans Nana, je relisais les premiers tomes de Nana, puis j'étais comme, oh mon Dieu, le travail des visages et des émotions et de la tristesse dans un visage qui veut rester digne. Et j'étais comme, waouh. Donc, ouais, ça, il y avait vraiment, c'était cette, à la fois aussi comme un hommage, parce que c'est super important dans ma construction en tant que personne, puis artiste, je pense, l'impact des shoujo, et aussi parce que c'était super utile pour l'histoire que je voulais raconter, vraiment travailler, avoir des visages très simples, parce que par exemple, le visage de Clara, mon héroïne, Enfin, toi, je me suis demandé s'il n'était pas trop simple parce que, au final, c'est elle qui a le visage le plus simple de tous les personnages. C'est vraiment un visage rond avec des petits yeux, un petit nez, une petite bouche, mais plutôt des grands yeux. Bref, on s'en fiche. Mais alors que les autres, ils ont plus, comme c'est ça, un visage plus anguleux, des lèvres plus ourlées, comme des choses comme ça. Et je me disais, oh, mon Dieu, est-ce qu'elle est trop simple ? Et en fait, non, parce que ça permet d'avoir une sorte de toile assez, assez neutre pour justement travailler. Les émotions, voilà.
Oui, mais ça devient beaucoup l'élément qui ressort. Quand on voit les personnages, c'est un peu le premier élément qu'on remarque et ça m'apparaît nécessaire dans un livre qui, justement, traite des émotions, traite de l'intériorité, traite de la dépression. On a besoin d'avoir ce miroir-là et on a besoin du dessin, du visuel. J'ai l'impression que ce récit-là, rendu à l'écrit sans visuel, on perdrait aussi beaucoup cette dimension-là. Et en même temps, pas trop de complexité pour garder le focus, dans le fond. Mm.
Oui, non, c'est sûr. J'avoue que je saurais pas comment écrire un roman. J'ai vraiment besoin des images pour servir ce que je veux raconter. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de dans le travail de l'image qui me plaît et qui me facilite beaucoup la tâche. Parce que j'aime ça raconter des histoires, c'est vraiment ça que j'aime à la base. Et c'est sûr qu'avec le dessin, c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour moi. Et agréable peut-être. Et je trouve que oui, j'ai vraiment essayé de travailler ça, genre de travailler le dessin et montrer de travailler les émotions à travers le visage et aussi les gestes, les corps. Voilà, je sais que des fois c'est pas très réaliste, comme les proportions, la perspective, mais c'est pas forcément ça que je veux. C'est plus un réalisme des émotions. C'est vraiment prétentieux de dire un certain réalisme des émotions. Mais
ça
non,
se
plaît
bien dans cette entrevue, en tout cas.
Oui, hein, c'est...
Et en même temps, côté dynamique, si on est un peu, en restant un peu sur justement, c'est comme ça que je disparais. Parce que dans le fond, d'un côté, donc, il y a cet aspect de l'émotion qui est omniprésente, qui est un peu explorée, évidemment, autour de tout ça, mais dans un contexte aussi d'un récit... À la limite, en fait, puis des comparatifs qui ressortaient beaucoup, c'était avec, exemple, des films d'Éric Rohmer ou des trucs d'Agnès Varda. Donc, beaucoup dialoguer, côté humain, des échanges. Et c'est un peu à travers ces échanges-là qu'on construit l'intrigue ou qu'on construit les personnages et qu'on découvre un peu tranquillement, qu'on creuse autour de ces personnages-là.
Oui, ben c'est ça. Moi, j'aime vraiment... J'aime vraiment le cinéma, comme beaucoup de gens, je pense. Mais genre, il y a quelque chose dans... Ben là, c'est Varda et Rohmer, c'est vrai que c'est mes deux préférés. Bon, il y en a d'autres, mais j'aime ça, les films de gens qui parlent. Et quelque chose que j'aime dans les films de Rohmer, notamment, dans pas mal de films de Varda, il y a quand même une voix off, même si je trouve qu'elle le fait d'une façon super bien. Mais il y avait un truc que j'avais remarqué dans les films de Rohmer, c'est qu'il mettait très rarement de la voix off. Et souvent, en fait, on sait juste les choses par ce qu'on voit, en fait. On n'a pas d'informations en plus. Et là, c'était vraiment... De cette façon-là, j'avais envie de construire mon récit, c'est-à-dire je voulais pas qu'on ait de pensée, je voulais pas qu'il y ait de voix off, je voulais juste qu'on ait des choses parlées ou des choses qu'elle voit, par exemple quand elle est toute seule chez elle et qu'elle regarde son téléphone et tout ça. Mais je voulais vraiment travailler l'intériorité par les relations aux autres, en fait, ou l'absence de relations aux autres, même si je pense qu'il y a peu de moments où elle est vraiment sans personne autour, mais c'est ça. Et puis, j'ai vraiment un truc que moi j'adore, les dialogues. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ça parce que c'est quelque chose qui m'a très vite plu. Et en plus, bon, moi quand je regarde des films et tout ça, ou que je lis des BD et des livres, n'importe quoi, enfin, bref, c'est toujours un truc que je vais remarquer. J'aime vraiment ça, les dialogues bien écrits, et je trouve que ça donne beaucoup d'indices. C'est pas juste ce qui est dit qui donne des indices, c'est aussi la façon dont c'est dit, les tournures de phrases, et j'avais vraiment envie de travailler avec ça, donc ça c'était la partie fun. J'avais vraiment envie de, c'était vraiment plaisant, j'ai vraiment aimé ça, et j'aime vraiment ces films là et c'est vrai que c'est une grande grande source d'inspiration, et pour ce livre notamment, ces deux cinéastes, effectivement. Il y en a eu d'autres, mais ces deux, c'est vrai que c'est beaucoup sur leurs films à eux que je me suis basée.
Et en même temps, en fait, il y a comme quelque chose aussi dans l'intrigue qui amène vers le dialogue, parce qu'au bout du compte, c'est comme ça que je disparais. Je l'ai un peu perçu comme un livre sur la difficulté de dire les choses, de dire réellement les choses, ou de trouver un espace où on se sent libre de les dire pour vrai, sans jugement, sans justification. Donc, c'est sur la prise de parole. D'une victime,
oui.
En fait.
Oui, exactement. En fait, j'ai pas choisi non plus juste ce dialogue par hasard ou quoi. C'est parce que je trouvais que c'était une bonne façon de raconter cette histoire, en fait, de parler de cette dépression-là, parce que toutes les dépressions sont pas similaires et j'ai pas la prétention de dire que je raconte la dépression en général, c'est une en particulier. Et cette histoire, ça marchait beaucoup parce que c'est quelqu'un qui arrive pas à communiquer, qui est dans un milieu à la fois ouvert et en même temps maladroit, qui sait pas. Parce que c'est ça, c'est ses amis. Je voulais pas non plus que ce soit la gentille et tous ses amis qui comprennent pas, ils sont méchants ou ils sont pas, ou ils sont contre elle. C'est vraiment comme toutes ces choses un peu dissonantes qui arrivent jamais à se rejoindre et qui du coup en fait font une sorte de créent une sorte de confusion et de malheur chez elle qui arrive pas à parler parce que c'est pas que les gens sont pas là, en fait les gens sont là mais ils savent pas, elles savent pas comment tendre la perche et elle sait pas comment la prendre en fait et montrer ça à travers justement leurs discussions, leurs échanges. Je trouvais que c'était une bonne façon de le faire et j'espère que ça marche et j'espère que voilà qu'on comprend que c'est cette espèce de fragilité entre les points de vue qui est comme soulignée, je sais pas.
D'essayer de voir, en fait, d'essayer de comprendre, d'essayer de montrer de manière peut-être un peu naturaliste, entre guillemets, mais voici, tu sais, des amis, des gens qui se connaissent, mais tu sais, finalement, on dirait qu'il y a quelque chose quand on est face à une réalité qui est invisible, dans le fond, qui est immatérielle, ben c'est plus difficile peut-être d'amorcer ou d'ouvrir ou de trouver comment ouvrir le dialogue. Et en même temps, c'est important de le montrer aussi parce que ben on parle, c'est pas facile de parler de dépression déjà, c'est pas facile de parler d'émotions de vide, et c'est pas facile non plus de comprendre ou de saisir les conséquences que peuvent amener les violences sexuelles au bout du compte. Et donc, c'est un peu, j'ai l'impression qu'à travers un livre comme ça, d'un côté, il y a beaucoup de défis parce que c'est pas évident de parler du vide, de la dépression, du mal de vivre au bout du compte, et en même temps, il y a des tabous aussi qu'on affronte de front parce que c'est pas encore si répandu de réussir à bien parler de ces éléments-là, de bien parler aux victimes autant que de bien parler au public en général, sans choquer, sans créer des déclics qui vont amener aussi des gens qui ont vécu des éléments comme ça à peut-être se retrouver dans une dynamique un peu moins confortable. Donc, bref, c'est complexe pour une première fiction, dans le fond, tout ça pour dire ça.
Ouais, merci quand même de souligner tout ça parce que oui, c'est vrai, c'est un point hyper important pour moi je voulais vraiment pas que ce soit quelque chose de déclencheur, effectivement. Moi, j'aime pas du tout ça, les œuvres qui montrent pour choquer, notamment, voilà, par exemple, si on prend l'exemple des violences sexuelles, je trouve que c'est très très rare les fois où c'est montré graphiquement, où c'est, quand je dis graphiquement, enfin, pas forcément graphiquement dans le sens que c'est exagéré, mais qu'il y a vraiment une représentation de ces actes-là, de ces violences. Je trouve que c'est très rarement pour les victimes, c'est souvent pour choquer les personnes qui ne le sont pas, et c'est pas fait pour choquer dans le sens pour qu'on. Il y a beaucoup pas comme c'est pas fait pour qu'on soit du côté des victimes, c'est vraiment pour qu'on soit genre et sauf que moi ce qui m'intéressait là c'était de parce que je voulais parler de ça, je voulais pas en parler en excluant les personnes concernées et je voulais pas que ce soit quelque chose de pénible à lire. C'était vraiment pas ça que je voulais ça, c'est ça aussi, c'est que c'est un sujet très lourd et je vais pas faire comme si c'était voilà, c'est pas très grave et tout ça. C'était, je voulais vraiment montrer la lourdeur de ce sujet-là, même si je voulais pas aller justement jusque à la conséquence. Je voulais montrer la lourdeur et les difficultés de la dépression, même quand elle mène pas au suicide ou à des conséquences beaucoup plus graves comme par exemple l'internement ou voilà. Je voulais vraiment montrer la difficulté quotidienne d'une dépression basique. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais parce que justement ça, souvent il y a comme soit c'est pas grave, soit c'est la mort, il n'y a pas d'entre deux, et en fait c'est grave tout le temps. Et en faisant ça, je voulais pas non plus que ce soit un guide pour les personnes. En fait, je l'ai vraiment fait à la base pour les. J'ai pas fait à la base pour les personnes ayant vécu ça ou qui connaissent quelqu'un qui a vécu ça, mais c'est vraiment ce public-là que j'ai gardé en tête en me disant je veux pas que ce soit une expérience de lecture pénible et je veux pas que ce soit douloureux. Au contraire, j'aimerais que ce soit plutôt comme quelque chose de comme comme de la compréhension, je ne sais pas trop comment.
Une logique de partage, à la limite, d'un moment partagé, de dire, ben, tu sais, dans le fond, tu as vécu ça, d'autres l'ont vécu aussi, on n'est pas seul, dans le fond.
C'est ça, oui, parler de peut-être, oui, quelque chose sur la solitude, sur le partage. Je ne suis pas très bonne à parler des émotions, au final.
Mais... c'est bien fait. C'est dans le fond, bien, peut-être d'emblée, justement, pour se lancer dans un sujet comme ça, est-ce qu'il y a un travail de recherche, des entrevues, justement, pour essayer de réussir à comprendre un peu ou à s'approprier ou à réussir à rendre narrativement cette réalité-là, ce parcours-là, cette douleur-là, dans le fond?
Ben, je pense que la plupart des femmes savent ce que c'est. Je pense que la plupart des gens aussi, il y a beaucoup plus de personnes qui ont vécu de la dépression que ce qu'on pense. Donc moi, c'est vrai que c'est beaucoup avec des discussions, avec mon entourage, j'essaye de représenter ce que je vois et travailler aussi avec mes émotions, les émotions autour de moi. Puis c'est ça, j'ai vraiment... c'était aussi quelque chose d'assez... J'ai pas envie de dire naturel, mais je pense que j'avais tellement envie d'écrire une histoire depuis tellement de temps, une histoire longue. Ça faisait très longtemps que je voulais faire de la fiction, très longtemps que je voulais faire une longue fiction. J'avais fait des fanzines pour Exposine et tout ça. Que là, en fait, d'ailleurs, c'est un fanzine pour Exposine à la base. Et j'ai vu que j'avais d'autres choses à raconter. Et je pense que ça a été très... j'ai pas vraiment beaucoup... Je pense que j'avais tellement envie de raconter une histoire que j'ai vraiment pris toutes les choses autour de moi qui me semblaient être bien. Et il y a eu un travail de construction de l'histoire qui... je pense que j'avais emmagasiné des choses depuis longtemps et qui ont permis que c'est ça. J'ai pas...
Et puis quand on arrive avec les 30 premières pages, finalement, on se rend compte que non, finalement, on va poursuivre. On a de quoi à dire de ça. Puis on veut pousser plus loin le moment qu'on va partager comme lecteur ou qu'on va faire partager au lecteur avec ces personnages-là. Puis avec une réalité. Dans un contexte où, en plus, c'est souvent les conséquences psychologiques, dans le fond, des violences sexuelles, on a peut-être tendance à les oublier plus facilement parce que c'est pas visible. Donc, de réussir à nous ramener ou à nous rappeler si on a besoin de se faire rappeler aussi que c'est quelque chose qui existe. C'est un parcours réel et c'est un parcours trop fréquent encore aussi, malheureusement.
Ah oui, moi, je pense que même les chiffres officiels sur ça sont vraiment vus à la baisse parce que c'est quand on regarde autour de nous, c'est pas ça, c'est pas je pense une femme sur 10 que c'est, je pense que c'est beaucoup plus que ça malheureusement, ouais. Mais puis il y a vraiment l'idée voilà de la victime parfaite où soit tu dois t'enfuir, enfin il y a tellement, en fait il y a des choses tellement en opposition comme soit c'est vraiment pas grave et on s'en fiche, soit au contraire tu dois être la victime détruite et qui ne peut rien faire d'autre parce que si jamais tu continues à fonctionner au final non, alors ça veut dire que c'est pas vrai, en tout cas. Et on oublie toutes les choses. C'est ça, il y a aussi le fait qu'on pense que c'est montré comme l'acte lui-même, mais en fait, ça a des répercussions pour toujours. Enfin, pas pour toujours, peut-être pas, j'espère pas, mais comme ça a des répercussions sur le long terme. Et j'avais vraiment envie de montrer ça. J'avais vraiment envie de montrer... parce que moi, je pense que c'est très important de... Peut-être que c'est ma casquette de sociologue ou peut-être que juste c'est celle de femme et de militante, mais je pense qu'il y a quelque chose de très important à montrer l'impact matériel des dynamiques sociales dans les œuvres qu'on raconte. Je pense que rien n'est incontextuel, je pense que rien existe détaché de... En tout cas, je ne dis pas si j'avais inventé un univers ou quoi, mais là, ça se passe dans notre société. Donc, c'est sûr que la dépression d'une femme, ça ne va pas être... ça va être différent de celle d'un homme et ça ne va pas être la même chose et d'une femme précaire que d'une femme qui... En tout cas, et là, j'avais vraiment envie de montrer ça. Voilà, l'impact, à la fois, par exemple, le coût du système de santé mentale. Voilà, une psychologue, c'est très, très cher. Hein, c'est 120$.
Dans un contexte où elle aurait eu une jambe cassée, elle aurait eu des soins couverts. Exact. Mais là, on est dans un contexte autre et subitement, ça devient un blocage. Et subitement, on comprend que même pour elle, pour cette démarche de guérison, ça devient un blocage qui... amplifie le problème.
C'est ça, c'est un blocage concret et en plus d'argent. Puis en plus, il y a l'idée que c'est pas, enfin que comme c'est quelque chose. C'est ça, pourquoi ça c'est à elle de payer pour quelque chose qu'elle a subi. Comme il y a toutes ces choses là que j'avais envie de montrer dans le processus pas de guérison, parce que c'est pas un livre qui parle de guérison du tout. Il y a des gens qui disent oh la fin, c'est un ça on dirait qu'il y a c'est un happy end, alors que pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment peut-être un peu de l'espoir, mais c'est pas. J'ai pas du tout. Je voulais. Comme je sais que c'est pas aussi simple que oh, ça sort et maintenant on est guéri.
En fait, dire c'est pas guérir, c'est.
Oui, c'est ça exactement. Et donc j'avais pas du tout. C'était pas ça que. Mais même dans le chemin vers cette guérison là, que c'est compliqué en fait et que c'est pas juste une question de volonté, qu'il y a des choses. À la fois des choses matérielles, mais aussi des choses psychologiques, en plus de ça, qui peuvent bloquer. Enfin, c'est tellement un nœud compliqué. Et j'ai essayé peut-être de prendre un petit bout puis de dérouler, mais il reste quand même beaucoup, malheureusement.
Oui, puis le livre, en fait, lui-même est un peu en deux sections. J'ai l'impression qu'on a vraiment une première partie où on voit Clara, donc le personnage central, s'enfoncer. Tranquillement dans cette dépression-là, incapable justement soit de profiter des perches tendues, soit que les perches ne conviennent pas à l'instant pour X raisons. Et à un moment donné, après ça, on la retrouve et elle est au fond. Donc, c'est un peu les deux temps. Comme tu disais tantôt, on n'a pas la partie guérison, à mon sens non plus. Je veux dire, on finit au fond, on sent que peut-être que, mais l'avenir nous dira, mais on est vraiment dans l'étape de la descente et du fond, dans le fond.
Oui, mais c'est ça. Mais exactement. En fait, c'est ça. C'est vraiment construit en deux parties. Donc, je suis contente. Oui, la première partie, c'était l'enfoncement, exactement, l'enfoncement progressif. Et la deuxième partie, c'est bien installé au fond, quoi. C'est un peu. Et voilà. Ça aurait été trop compliqué de. Enfin, trop compliqué. Je pense qu'on peut pas en 200 pages montrer. Montrer comme tout un processus du début à la fin, parce que malheureusement c'est pas aussi simple que ça. Peut-être que ça l'est dans certains cas, et je pense qu'il y a des cas aussi où la dépression c'est quelque chose qui va être induit par un événement précis, et qu'une fois cet événement dénoué, peut-être que ça ira mieux. Mais il y a des choses comme ça, justement, notamment les causes qui sont systémiques, c'est-à-dire qui ne sont pas juste individuelles, qui vont être beaucoup plus dures à dénouer, parce que ce n'est pas soi-même contre soi-même ou contre cette chose qu'on a vécue, mais contre cette chose qu'on a vécue, puis toutes les autres choses autour qui nous la rappellent tout le temps et qui nous disent tout le temps que c'était peut-être notre faute, ou alors que ce n'était pas si grave ou qu'on exagère, et tous ces blocages-là. Et donc, voilà.
Oui, puis la culpabilité, dans le fond, c'est de dire ben, pourquoi je m'en sors pas. Ben, les amis qui, à un moment donné, finissent par se tanner parce qu'il est toujours déprimé. Puis tranquillement, dans le fond, et ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt, dans le fond, on ne peut pas sortir la narration du contexte social. Donc, il faut aussi bien ancrer le contexte social dans lequel on place la situation pour après s'expliquer puis dire ben, voici une dépression dans ce contexte-là, démarrée par une violence sexuelle au départ, ben, pourrait peut-être arriver comme ça dans le contexte de notre société, mais dans une autre société, ben, ça ne serait pas nécessairement similaire non plus. Mais peut-être que oui, donc c'est... Dans le fond, faut bien ancrer les choses, faut bien présenter le contexte, dans le fond, pas simplement le symptôme au cœur, parce que, comme vous venez de dire, dans le fond, c'est pas seulement l'élément central qui est la cause non plus, mais ça peut être exacerbé par les dynamiques sociales, par les pressions sociales, par les perceptions, par les tabous, par les préjugés, etc.
Oui, non, c'est exactement ça. Puis je suis pas allée à la plus grande difficulté non plus. Je suis pas, c'est ça. J'ai choisi un milieu qui ressemble. Comme je disais, je me suis beaucoup inspirée de ce que je vois autour de moi. Donc j'ai choisi un milieu qui ressemble beaucoup au mien. Bon, c'est le milieu littéraire et non pas de la bande dessinée, mais je connais aussi des gens du milieu littéraire, etc. Et donc il y avait un truc un peu de pas choisir la difficulté plus de genre oh, un milieu où elle serait vraiment rejetée, tout ça. Voilà, je voulais montrer que même avec un milieu ouvert qui connaît ça et qui est quand même un peu éduqué, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de malaise, en fait, parce que c'est ça, je pense qu'il y a un grand malaise qui entoure ces questions-là, ce sujet-là, que ce soit à la base, que ce soit autour des personnes qui vivent ça ou de leur entourage aussi, parce que ben, je pense qu'on peut jamais. Ça demande un gros travail en fait de d'éducation, j'imagine, et de sur soi et voilà, sur la façon dont on va vers les autres pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est que la dépression et comment agir bien avec quelqu'un qui souffre de ça, quoi.
Et en fait, d'un côté, j'ai l'impression que l'aspect éducatif est assez présent à date dans les titres que tu nous as offerts, parce que, dans le fond, autant pour la dépression, pour ces réalités qu'on adresse dans C'est ainsi, c'est comme ça que je disparais, autant dans les termes, dans les éléments de tes écrits plus didactiques où tu décortiques, t'expliques le féminisme, on se rend compte, on adresse des malaises, on adresse des éléments qui sont acceptés, sont embrassés par les uns, mais qui font encore réagir chez d'autres. Et encore aujourd'hui, il y en a qui vont gêner d'utiliser certains termes ou d'autres termes aussi. Donc, on voit qu'il y a peut-être moins de malaise aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 10 ans, mais il y en a encore sur certaines choses. D'où l'importance, j'imagine, aussi de les adresser, de les amener, profiter de médiums comme la bande dessinée pour les sortir de façon différente. Peut-être que ça sort dans d'autres contextes académiques, etc.
Oui, non, je pense que c'est... Je ne sais pas si j'ai voulu faire quelque chose d'éducationnel, mais c'est sûr que, comme je disais, c'est ça pour moi, l'idée que le contexte social se détache pas. C'est peut-être ça qui ressemble à quelque chose d'éducatif, parce que dans le sens que je pense que je dis ça parce que j'étais tellement en rupture avec « Non, maintenant, j'ai fini la BD didactique. »
Mais c'est vrai que... C'est des façons différentes d'amener le didactique. C'est ça, à travers les motifs, l'expérience, la fiction, à travers des trucs plus classiques.
Mais par exemple, je parlais d'Agnès Varda et c'est en ça qu'elle m'inspire beaucoup parce qu'elle touche à beaucoup de choses. Elle fait du documentaire, de l'autobiographie, elle fait des films de fiction. Mais même dans ces films de fiction, par exemple, c'est Antoine Nilois qui raconte... les dernières semaines une jeune femme itinérante qui voilà qu'on voit faire la route, je pense qu'on dit en France, où elle est, bref, puis mais ça parle à la fois, ça raconte juste l'histoire de cette jeune femme là mais aussi ça parle de beaucoup d'autres aspects à travers les gens qu'elle rencontre, à travers ce qu'elle vit, à travers les violences ou les préjugés qu'elle reçoit, etc. et pourtant c'est juste un film de fiction qui raconte une histoire. Mais ça explore beaucoup plus de choses que juste raconter une simple histoire. Pourquoi je dis une simple histoire ? Parce qu'une simple histoire, moi, je ne pense pas qu'il y a de simple histoire, justement, en fait. Je pense que toutes les œuvres de fiction racontent beaucoup plus de choses que le récit lui-même. Et voilà. Et je pense que j'ai essayé de faire quelque chose de comme ça aussi, qui déborde peut-être un peu du récit pur pour toucher d'autres choses, mais...
Ouais, des thématiques qui touchent, des thématiques que tu as envie d'amener, des éléments, puis un peu dès le départ aussi, parce que si on remonte à 2011-2013, ben rapidement, je veux dire, la volonté d'amener des réflexions actuelles, féministes, avec un côté militant, avec un côté politique, avec un côté social, c'est un peu ta ligne directrice, d'une certaine façon, puis il y a une dynamique de prise de parole de ta part aussi, en nous amenant ces éléments-là, de différentes façons.
Oui, merci, mais c'est gentil de dire ça. Non, mais merci, c'est... Oui, non, je pense que il y a... C'est dit aussi parce que peut-être j'ai été... pas repérée, c'est pas le mot que je veux dire, mais genre mon premier livre a été... parce que sur mon blog, je parlais de féminisme, je pense qu'après, il y a eu un peu cette... C'est une étiquette que j'ai travaillée, là. Je veux dire, j'ai fait des études dans ça. Mais c'est sûr que bon, c'est des choses qui me tiennent à cœur et je ne peux pas les détacher de ce que je fais. Donc, j'imagine que ça tâche un peu tout, mais en positif, comme je pense que c'est des belles tâches. Désolée, je perds mes mots. Mais non, c'est sûr que c'est quelque chose qui est au cœur de mon travail. Et puis, j'ai pas du tout autant je voulais me détacher de la BD didactique simplement parce que moi j'avais envie de raconter des histoires à la base. C'était toujours la fiction qui m'avait le plus tentée. Et puis aussi parce que c'est facile quand on fait juste de la BD féministe de pas être vue comme une vraie de la BD féministe, pardon, de la BD didactique, pas être vue comme une vraie autrice. Donc, je pense que j'avais envie de comme faire mes preuves, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je renie du tout, que je suis. Je veux dire, je suis contente de quelque chose que j'ai travaillé, et j'espère que ça se verra dans le reste de mon travail aussi.
Ou que ça se voit même dans cette étape de travail-là, parce que pas la recherche, la réflexion, si on est capable d'aller aussi d'aller puiser, si on peut dire, à ce qui nous entoure, aux expériences. Aussi, c'est un sujet que tu fouilles depuis des années, c'est des éléments qui t'intéressent, le côté sociologue. Donc, ce qui fait que tu as un peu une spécialité narrative, entre guillemets, mais dans le sens positif du terme. Puis après ça, d'une capacité, puis c'est, j'imagine, le défi de l'amener dans différents tons, de passer d'un côté vers des trucs adultes, vers des trucs un peu jeunesse, vers de la fiction, vers du documentaire, du didactique. Donc, on surfe un peu entre l'un et l'autre, mais de ce que j'en comprends, c'est peut-être la fiction qui risque d'être la trame de fond pour, à tout le moins, les prochaines créations.
Oui, ben c'est ça. Je me dis, j'aimerais ça. Comme je disais, j'avais réécrit une note, si on parle au terme de blog. Mon Dieu, c'est fou de se dire que les blogs, c'est quasiment disparu maintenant. Maintenant, c'est beaucoup Instagram. Mais genre, j'avais repensé ça à une BD didactique, voilà, sur des questions encore de vulgarisation de socio-féministe. Et j'aimerais ça trouver un moment le temps de la faire. Mais c'est vrai que j'aime vraiment ça, raconter des histoires. Puis là, j'ai comme un projet de BD narrative, de fiction pour enfants. Et j'en ai une autre pour adultes. Que j'ai pas du tout à peine commencé les deux. Là. Je suis justement au stade de la recherche de la forme. Et bon, voilà. Mais peut-être qu'après, j'y reviendrai. J'aimerais ça... idéalement, en fait, j'aimerais ça pouvoir toucher à plein de choses. J'aimerais ça... j'aime vraiment beaucoup la bande dessinée et je trouve que il y a tellement de choses riches et belles à faire avec et il y a tellement d'endroits à explorer avec ça que j'aimerais ça continuer, voilà. Après, probablement que je ne suis pas très bonne à tout, mais je veux dire, c'est quand même le fun d'essayer de voir qu'est-ce qui nous plaît et puis voilà, j'aimerais ça peut-être refaire de la BD de socio, mais sur un format peut-être plus long, comme à un moment je pensais peut-être faire une enquête, je sais pas si... Enfin, une enquête, comme genre un seul sujet qui serait délié, bref, je sais pas, il y a plein de choses qui sont chouettes, mais c'est sûr que on dirait que je veux me défendre en disant non, promis, je vais pas faire que de la fiction, mais c'est vrai que c'est beaucoup de la fiction que j'aime et qui me donne le plus de plaisir à écrire et à faire et à travailler aussi, c'est ça que je trouvais fou, c'est que même les moments où j'étais bloquée, les moments où je devais me sortir d'un nœud de l'histoire, d'essayer de trouver quelque chose, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment le fun à faire. Genre, j'étais comme faire un devoir, mais bien.
De passer d'un côté les personnages, comment on les organise, ensuite de voir un peu comment on les installe sur la page, est-ce que ça fonctionne, de rythmer exact. Tout ça.
C'est vraiment... Et autant la BD didactique, je trouve que j'ai beaucoup de plaisir aussi à la faire parfois et souvent, en fait. Mais les moments où je suis bloquée, c'est beaucoup moins agréable que quand c'est de la fiction. C'est moins un casse-tête cool qu'un travail d'école qu'on n'a vraiment pas envie de rendre, mais qu'on doit quand même rendre pour demain matin parce que, bon, on a traîné depuis 2 semaines et demie.
Puis en même temps, c'est sûr qu'il y a toujours des défis aussi, j'imagine. Exemple, dans le contexte de la fiction... on parlait du monde dans lequel la fiction s'inscrit. Ben, exemple, les médias sociaux, Instagram et le reste mentionnés. Ben, faut réussir à trouver une façon de les intégrer qui soit naturelle. Les dialogues, faut réussir à trouver une façon de les intégrer qui soit naturelle aussi. Ça reste un joli casse-tête de bien faire de la fiction aussi, de bien s'approprier ce côté-là, puis de réussir à rendre ça de manière fluide, de manière naturelle, dans le fond.
Ouais, vraiment. C'est ça. En plus, moi, j'ai vraiment j'aime vraiment ça, l'utilisation des réseaux sociaux dans les récits d'aujourd'hui. Comme je trouve ça toujours étrange quand dans les récits, qui se passe de nos jours, on fait un peu comme si ça n'existait pas, alors que c'est une partie vraiment présente. Après, j'ai pas du tout non plus voulu faire une critique des réseaux sociaux. Il y a des gens qui m'ont demandé si je voulais faire une critique d'Instagram, mais j'étais comme... Moi, pour moi, Instagram, c'est juste un outil professionnel, donc j'ai pas du tout le même rapport que quelqu'un qui est qui va l'utiliser pour suivre des influenceuses ou quoi. C'est... Quand on est illustrateur, je pense qu'il y a un aspect plus professionnel. Bref, donc j'avais pas du tout cette... c'était pas ça que j'ai essayé de faire. Je pense que si j'essayais de le faire, ça serait complètement raté. Mais il y avait vraiment c'est ça exactement, l'envie de l'intégrer d'une bonne façon. De faire que ça soit naturel, que ça fasse pas que ça soit pas grossier, que ça soit et je trouve qu'il y a vraiment des à chaque fois qu'il y a comme un film ou une série ou une chanson qui utilise ça bien, genre par exemple la chanson d'Angèle, désolée, c'est quand même un truc, mais comme elle a sorti une chanson qui est comme oui et non, je pense, puis j'étais comme waouh, c'est vraiment un bon truc de réseaux sociaux, et je trouve que c'était, en tout cas, c'est des trucs fun à explorer, un peu nouveau, j'imagine, même si donc, si ça fait quand même un peu de temps que ça existe.
Mais en même temps, ça devient des triggers ou des éléments aussi qui peuvent amener le récit à avancer. Ouais. Comme, alors, en fait, pour revenir au livre, à un moment donné, Clara qui tombe sur Instagram, quelqu'un qui une personne qui a liké un statut ou qui a liké une photo, mais là, c'est comme où ou l'accessibilité à l'intimité d'autres personnes aussi qui change un peu le, j'imagine, le processus de passer à autre chose, le processus de, qui peut ralentir la capacité qu'on peut avoir à avancer.
C'est ça, exactement. C'est à la fois quelque chose, c'est comme un lien qu'elle a avec l'extérieur, mais c'est exactement comme marcher dans la rue, en fait, même si, il y a peut-être plus de bénéfices à marcher dans la rue pour la santé. Mais c'est vraiment à la fois quelque chose de positif parce que ça peut lui permettre de communiquer avec ses amis qui sont loin et son meilleur ami, ou une façon qu'elle peut être, une façon pour elle d'être jointe par ses amis-là aussi qui vont la chercher, mais aussi exactement, ça peut être des trucs négatifs et un rappel de personnes qui nous ont blessés ou auxquelles on ne s'attend pas forcément ou qu'on peut aller chercher. Mais c'est exactement comme marcher dans la rue puis tomber sur un de ses amis ou tomber sur quelqu'un qu'on voulait éviter. Et donc voilà, et je voulais vraiment montrer l'aspect relationnel d'Instagram et des réseaux sociaux et de Facebook et de Messenger. Et juste l'utiliser comme un élément narratif plus que comme... qu'en parler vraiment. Pour moi, c'est vraiment plus un outil que c'est ça. J'ai toujours peur que les gens pensent que je voulais faire une critique de ça ou quoi, parce que comme je disais, je pense que, mon Dieu, si jamais on le regarde au niveau de critique des réseaux sociaux, ça serait tellement... Je pense pas du tout que ça serait une bonne critique ou quoi.
De toute façon, j'ai l'impression qu'on passerait à côté du cœur du livre, là, c'est plus sur une démarche de personnage que sur une critique de... En fait, la critique est plus large de toute façon aussi, où les constats sont plus larges que simplement sur un aspect, un élément... Mais parce qu'on revient un peu à ce qu'on disait au départ, au bout du compte, sur les schèmes, sur les manières de fonctionner, sur la pensée globale qu'on a, nous, comme société, qui fait qu'après ça, on va perpétuer ou complexifier, si on peut dire, les réalités de gens qui, eux, souffrent comme ton personnage principal, au bout du compte.
Oui.
Si je synthétise encore.
Non, oui, merci. C'est vraiment une bonne... ça me fait vraiment plaisir parce que c'est des bons... comme une bonne compréhension du livre, mais pas dans le sens que ça me fait plaisir que ça a été reçu un peu comme je le voulais.
J'imagine que la compréhension varie aussi selon les individus, selon l'expérience des individus. Le livre, en fait, probablement qu'une femme, un homme ne le recevra pas nécessairement de la même façon non plus. C'est dans ces situations-là, j'imagine qu'on réalise aussi ou qu'on perçoit bien la variété des expériences et le fait qu'on n'est pas dans les souliers des autres. Donc, on a une idée assez rudimentaire de ce que l'autre personne, l'autre réalité va être comparativement à celle que nous, que moi, je vis, par exemple.
Oui, ben, je pense que après, il y a eu des... C'est pas général et une règle sans exception, mais effectivement, il y a eu quelque chose... Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs hommes qui voyaient le truc des violences comme un twist final, alors que pour moi, c'est dès les premières pages, c'est raconté. Puis chez les femmes, c'était beaucoup plus compris dès le début. Et aussi, dans les critiques plus négatives que j'ai pu avoir, comme il y a eu plusieurs critiques masculins qui ont dit que ça manquait de rebondissement. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je suis très ouverte à des critiques négatives et je suis pas en train de dire ça du tout là, mais je veux dire, je trouve ça étonnant qu'un livre sur la dépression, on critique le manque de rebondissement parce que c'est un peu difficile de faire des péripéties quand on parle de... Je pense qu'il y a quand même une ou deux critiques femmes qui ont dit la même chose là, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs... C'est quelque chose qui est revenu et j'étais assez étonnée en fait de ça. Quelqu'un qui m'a dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas de confrontation aussi, et j'étais comme là. C'est juste que je pense que c'est pas l'histoire que j'ai voulu raconter non plus. Je voulais faire quelque chose d'assez réaliste, c'est de naturaliste, ça. Je dirais que c'est la critique qui m'a le plus surprise parce que effectivement, je sais pas trop comment j'aurais pu faire plus de péripéties.
Et je rappelle, dans le fond, l'ouvrage dont on parlait de manière plus détaillée, c'est comme ça que je disparais. Donc, c'est déjà disponible du côté européen chez La Ville Brûle. Mmh. Au Québec, donc, ça va être disponible fin d'été, début d'automne du côté des éditions Pow Pow.
Oui,
on a mentionné aussi la Ligue des super féministes du côté de La Ville Brûle également. Et avant ça, Commando Culotte chez Ankama. Myriam Mal, en terminant, peut-être... quelques petites questions rapides et brèves, on les garde un peu en pétarade à la fin des entrevues. La première BD que tu as lue, ce serait quoi?
Alors, je pense que la première BD que j'ai lue, c'était des Tom Tom et Nana. Je ne me rappelle pas exactement quel tome, mais je suis toujours très fan de Tom Tom et Nana. Donc, c'est une série de, dessinée par Bernadette Després et Evelyne Reberg, je pense, au scénario. Mais je me demande si Bernadette Després n'a pas fait des fois du scénario. Bref, en tout cas, mais les dessins de Bernadette Després sont vraiment trop bien et ça m'a beaucoup marquée dans la façon qu'elle a de dessiner les mains, notamment. Et c'est super bien, Tom Tom et Nana. Je conseille à tout le monde. C'est pour enfants, mais c'est un délice même quand on est adulte.
La BD que tu as le plus lue et relue?
Alors ça, je pense que c'est Gals de Miona Fuji, qui est un shoujo manga que j'avais... En fait, c'est quand j'étais petite, avec mes meilleurs amis, on achetait souvent un tome sur deux des séries de mangas qu'on lisait, parce que bon, on avait genre 10 ans, et donc nos parents ils nous achetaient un manga par mois. C'est 5 euros, c'était quand même un investissement. Et cette série-là, je me rappelle que j'ai fini par échanger tous les tomes qui me manquaient avec mes amis parce que je l'aimais trop. C'était trop drôle et c'est vraiment hyper drôle et très le fun. Et j'avais vraiment envie de ressembler à l'héroïne qui fait que se battre tout le temps et qui est vraiment trop cool. Et bref, et donc voilà, et je pense que je l'ai relu plein de fois. Et d'ailleurs, je l'ai relu l'été passé. Et peut-être que je vais le relire cet été. Quand j'ai déménagé à Montréal, une des premières choses que j'ai fait, c'est racheter l'intégrale sur Kijiji. Car c'est vraiment super bien.
La BD qui t'a le plus marqué, soit personnellement, soit professionnellement, je te laisse le choix.
Ben, je pense que c'est les deux. Je ne sais pas si c'est toujours difficile de dire la BD qui m'a le plus marqué, mais il y a vraiment, il y a eu un avant et après journal de Julie Delporte. Très important pour moi parce que je pense que à la fois ça a résonné avec beaucoup de choses, beaucoup d'émotions et ça a vraiment changé ma façon de penser la bande dessinée, de d'écrire la bande dessinée. Je pense que peut-être l'aspect autobiographique, mais pas seulement, juste la narration, la façon d'écrire, ça a vraiment, je pense vraiment que ça, c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué dans les deux aspects. Vraiment, je suis trop contente que ça. S'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait eu mon livre devait sortir en même temps que la réédition là de journal. Donc c'était la gloire infinie pour moi de pouvoir partager ça avec Julie. Mais non, mais ouais, c'est vraiment. Je suis trop contente qu'il ressorte chez Pawpaw parce que c'est vraiment un livre précieux.
La dernière BD que tu as lue?
La dernière BD que j'ai lue, alors j'ai oublié la dernière que j'ai lue, même si je pense que c'était Cécile ou les objets cassés de Elodie Chanta. Excellente BD pour enfants, adorable, très très drôle, beaucoup d'émotions, beaucoup de... C'est ça, c'est une BD jeunesse, mais c'est tellement riche et l'histoire est super bien et c'est pas du tout... L'histoire ne prime pas sur les personnages et les personnages ne priment pas sur l'histoire, les deux sont construits de la même façon. Et sinon, là, j'ai relu pas mal de BD et la dernière que j'ai relue, c'est Laura Dean Keeps Breaking Up With Me de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell. Désolée pour mon accent anglais. Très mignonne histoire de tristesse amoureuse adolescente, donc voilà.
Et en terminant, dernière question, hors de la BD, un livre qui t'a marqué?
Alors là, j'ai lu très récemment Une chambre à soi de Virginia Woolf. Puis je me suis trouvée bien bête d'avoir attendu si longtemps pour le lire parce que bon, c'est toujours étrange. Désolé, il y a un camion qui passe dans ma rue. Je ne sais pas si tu entends pas trop. Mais c'est toujours étrange de lire un livre qui a presque 100 ans, non, enfin, en tout cas qui date du début du 20e siècle et de... voir que ça résonne encore beaucoup. Bien sûr, la situation a changé, bien sûr, mais je trouve que ça résonne beaucoup avec la vision qu'on a des femmes artistes aujourd'hui et la réalité des femmes artistes. Et il y a quelque chose de super intéressant aussi de parler du génie artistique d'un point de vue matériel, du fait que c'est beaucoup plus difficile de créer quand on n'a pas d'indépendance financière ou qu'on doit s'occuper de quelqu'un d'autre ou enfin voilà et j'ai vraiment beaucoup aimé ça et j'ai trouvé ça très drôle aussi. Je m'attendais pas à ce que ce soit drôle et en fait ça l'était beaucoup.
Alors ben voilà. Myriam Mal, merci beaucoup.
Merci beaucoup aussi et puis désolée si j'ai balbutié ou comme machin ou quoi, c'est voilà, en plus c'est la canicule aujourd'hui alors. J'espère que c'était quand même clair.
Mais merci.
Merci beaucoup.
Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième rencontre du 9e type. Comme à l'habitude, remerciements obligés à Thomas-Louis Côté qui s'assure de l'enrobage et de l'emballage technique de ces rencontres et qui les accompagne également. Donc Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival Québec BD. Je vous rappelle que les rencontres du 9e type sont une collaboration entre le Festival Québec BD et La Vie en BD sur CKRL 89.1. On en profite également pour remercier la Fabrique culturelle. Et bien, de notre côté, après cette semaine, donc une belle rencontre avec Myrion Malle. La semaine prochaine, on s'en va à la rencontre d'Alex A., auteur de La Jean-Jean. Alors, c'était Raymond Poirier avec vous. Ça a été un plaisir, évidemment, et je vous dis à la semaine prochaine.